Merci beaucoup Michel, merci beaucoup au Centre universitaire d'études marxistes pour cette conférence autour de l'ouvrage donc, que j'ai sorti chez Delga en fin d'année 2017. D'ailleurs, je tiens à préciser que Delga n'offre pas de droit d'auteur. Donc, toute la différence entre l'auteur et, va dans les caisses de l'Association d'amitié franco-coréenne. Et je vous rassure tout de suite, l'argent ne finance pas le programme nucléaire. Non, je ne sais jamais, hein, on pourrait penser qu'on a une caisse noire pour enrichir le pays. Ben, merci pour cette présentation. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà de faire une présentation liminaire pour ensuite laisser assez de temps pour les questions. Peut-être dire un peu comment je me suis intéressé à ce pays. Moi, j'ai été étudiant à l'Institut d'études politiques de Paris avant de poursuivre à l'École nationale d'administration, puis de passer les concours du Sénat. Et j'ai été amené à travailler un peu par hasard sur la question coréenne. C'était en 96, je fais pas mon âge, c'était le siècle dernier. Et à l'époque, bon, Internet étant très peu développé, notamment l'Internet francophone, donc je vais dans la bibliothèque de Sciences Po, et là je découvre les ouvrages des éditions en langue étrangère de Pyongyang. Alors, c'était déjà extrêmement intéressant, parce que ce n'était pas le point de vue dominant. Ensuite, j'ai été amené à travailler également sur une encyclopédie que vous connaissez peut-être, on la trouve chez Bouquiniste, qui s'appelle Le Million. C'était une encyclopédie qui fonctionnait par feuillet à la fin des années 60, début des années 70. Et à l'époque, ce qui m'étonnait, c'est qu'on présentait la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée, sous un jour favorable, en expliquant que la Corée du Sud, avec son modèle exportateur, risquait de s'effondrer, alors que la Corée du Nord avait mis en place un développement autonome qui était beaucoup plus prometteur. Bon, après, l'histoire est ce qu'elle est, la Corée du Sud aujourd'hui plus développée, mais en tout cas pour dire que la présentation de la Corée du Nord comme un pays sous un jour totalement négatif, c'est finalement une création relativement récente, qu'on trouve surtout des années 80 et plus encore des années 90. Quand l'Union soviétique disparaît, un certain nombre de journalistes cherchent des repères, parce que finalement c'est rassurant de rester dans un monde que l'on connaît, et là ils sont tombés sur la Corée du Nord, qui a commencé à faire l'objet de reportages de plus en plus nombreux, avec quelque chose que l'on renvoie systématiquement, le dernier état stalinien au monde. Alors, je voudrais déjà dire quand même quelque chose. Le stalinisme, pour peu que ça existait, parce que je ne crois pas que Staline se soit jamais revendiqué aussi successeur d'un stalinisme, on va dire le marxiste-léninisme, ça suppose un certain nombre de références. La Corée du Nord est née, enfin le régime est né en 1948, mais sur la base, en 1945, de la résistance anti-japonaise menée par le président Kim Il-sung. Évidemment, on va avoir un certain nombre d'influences qui viennent non seulement de l'Union soviétique puis de la Chine, mais aussi des luttes de résistance anti-japonaise elle-même. La Corée du Nord, comme le Vietnam ou la Chine, ce sont des États qui sont nés de la résistance à l'occupation, à la colonisation, et on pourrait dire que Kim Il-sung, c'est un peu la synthèse de Gaulle et de Maurice Thorez. Dans le sens où il va incarner un mouvement de résistance issu du mouvement communiste, lui-même rejoint le mouvement communiste dès les années 20, mais il va le mettre en place dans une tradition qui est une tradition coréenne, avec, dès l'origine, une influence extrêmement forte du confucianisme, même si les Nord-Coréens ne s'en revendiquent plus, comme du reste les Chinois, c'est-à-dire avec un respect de l'ancienneté, avec un respect donc non seulement des plus anciens, mais également sur des aspects qui intéressent les enseignants, un respect de l'enseignant, on écoute l'enseignant, on ne contredit pas l'enseignant est celui qui dispense le savoir. Un respect également sous des aspects qui sont moins libérateurs, c'est-à-dire des hommes par rapport aux femmes. Et justement, toute l'intelligence politique de Kim Il-sung, qui n'est pas le seul leader de la résistance communiste anti-japonaise, ce sera de sortir à la fois d'une lecture dogmatique du marxisme, mais également d'une lecture qui essaie de ne pas brusquer les traditions culturelles. Dès 1946, loi sur l'égalité homme-femme, à l'époque la plus révolutionnaire d'Asie, loi également qui prévoit une distribution agraire avec une redistribution des terres d'une société qui sortait de la colonisation mais également d'un modèle féodal, et également loi sur la redistribution de la propriété avec une propriété collective des moyens de production qui reste aujourd'hui encore le modèle dominant. Donc la Corée du Nord à l'époque en 1945 représente la zone où vont être présentes les troupes soviétiques. de part et d'autre d'une ligne qui est le 38e parallèle, au sud, qui est donc la zone où les Américains reçoivent la reddition des troupes japonaises, mais pour ne pas avoir de problème, ils n'interviendront qu'après la capitulation japonaise. D'ailleurs, le sud de la Corée voit se mettre en place un certain nombre de régimes, de structures spontanées, comme en France avec les comités de libération nationale, ils fondent d'ailleurs la République démocratique de Corée, qui vont très vite être mis au pas par les Américains, qui choisiront de mettre en place un régime militaire, mais également Syngman Rhee, un ancien président du gouvernement provisoire de la République de Corée, qui avait comme avantage principal d'être farouchement anticommuniste. La Corée du Sud, donc, n'est pas et ne sera pas, au moins jusqu'à la fin des années 80, un régime démocratique, à part une courte parenthèse démocratique en 1960 et 1961, pendant que la République populaire démocratique de Corée, qui bénéficie, il faut le reconnaître, des bases de l'industrialisation japonaise, est un pays qui part au début mieux doté et qui, jusqu'aux années 70, sera d'ailleurs plus riche que la Corée du Sud. La question qui va très vite se poser va être de savoir comment administrer le nouvel État. L'idée d'élection qui serait organisée dans l'ensemble de la péninsule se heurte à la popularité des forces de gauche et notamment du Parti communiste au sud de la péninsule. Et lorsque les élections vont finalement être menées sous l'égide des Nations Unies en 1948, la gauche coréenne, pour sa plus grande partie, mais également une partie de la droite nationaliste, refuse des élections séparées, qui aboutiront à la naissance de la République de Corée, Corée du Sud, en août 1948, puis à la proclamation de la République populaire démocratique de Corée le 9 septembre, à l'issue d'élections organisées de manière clandestine dans la partie sud, mais la première assemblée avait d'ailleurs un certain nombre de députés qui venaient donc de la partie sud. Alors c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, une des grandes questions est de se dire, mais quelle est la légitimité de cet État? On a souvent entendu l'idée d'État fantoche, d'État notamment fantoche des soviétiques. À l'origine, pour une partie des progressistes sud-coréens, puisqu'on parle plutôt que de gauche-droite, on parle plutôt progressistes conservateurs, à l'époque, la République populaire démocratique de Corée représente un régime où la présence militaire soviétique est beaucoup moins marquée qu'au sud, parce que pour les Américains, parce que les Soviétiques ont cette intelligence d'assez vite transférer le pouvoir. Et d'ailleurs, le nom même République populaire démocratique de Corée renvoie à l'idée d'une succession par rapport à la République démocratique de Corée qui avait été fondée en 1945. Autre élément, c'est qu'on a un système de pluralisme avec une union au sein d'un front pour l'unification de la Corée, dont le principal élément est le Parti de travail de Corée, qui est la fusion de plusieurs organisations communistes, d'un parti d'inspiration religieuse, le parti de Chondogyo, et d'un parti démocrate, social-démocrate, ça dépend des traductions. Donc il y a eu un vrai débat politique, non seulement interne au Parti du Travail de Corée, mais aussi interne entre les différents mouvements politiques. Alors après, il ne faut pas non plus se leurrer. Très rapidement, les oppositions politiques, notamment dans les autres partis, encore à peu près le même poids en 1945, vont aboutir à un pouvoir des forces qui sont proches du Parti communiste. Notamment, le mouvement Chondogyo, proche des masses paysannes, va tenter une mise en cause de la réforme agraire, en tout cas de ses conditions, et aboutira à un changement interne à la tête du parti. L'élément fondateur du pays, va être la guerre de Corée, 25 juin 1950, 27 juillet 1953, qui est présenté aujourd'hui unanimement, c'est ce qu'on lit dans nos ouvrages d'histoire, comme une offensive du Nord contre le Sud, mais qui est présenté de la version nord-coréenne comme une agression du Nord contre le Sud. Alors, du Sud contre le Nord, pardon, excusez-moi. Ça, c'est le côté l'ancien dyslexique. Mais c'est bon que vous suivez, hein, pour le moment, c'est bien, je note là. Et donc, qui va effectivement être avec un ensemble de documents. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'un ensemble d'historiens progressistes sud-coréens montre que les incidents de frontières qui ont fait des dizaines de milliers de morts avant même le déclenchement de la guerre de Corée rendent assez aléatoire de savoir qui a tiré le premier coup de feu. Ce qui est absolument évident, c'est qu'à l'époque, le Nord a une supériorité au plan militaire et que c'est le Nord qui, dans ses incidents de frontières, va lancer la première grande offensive. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'en mars 1950, les élections locales ont été un désastre pour le gouvernement sud-coréen. Qu'en 1948, les forces communistes ont été à peu près écrasées au sud de la péninsule et qu'on retrouve d'ailleurs un schéma assez proche de celui qu'on verra au Vietnam. Du point de vue de Kim Il-sung, le président nord-coréen, qui est un ancien leader de guérilla, il y a une certaine logique à espérer un soulèvement des populations au sud, où en quelque sorte les armées nord-coréennes, enfin les armées basées sur l'État au nord, seraient accueillies en libérateur. Ce qui sera relativement plus complexe. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on sait, c'est qu'il y aura de nombreuses morts au début de la guerre de Corée. On estime aujourd'hui qu'il y a eu entre 150 000 et 200 000 morts de communistes ou supposés communistes uniquement dans le sud de la péninsule dans les premières semaines de la guerre. Toujours est-il que la guerre aboutit à une offensive très rapide des troupes de l'armée populaire de Corée et des partisans communistes jusqu'à une poche autour de Pusan qui est dans l'extrémité sud-est de la Corée. Manque de munitions et surtout ce qui va se passer c'est que le gouvernement de la République de Corée appelle les Nations Unies à la rescousse. Et les Nations Unies prendront cette cause pour le gouvernement de la République de Corée. Donc c'est la première intervention des Nations Unies avec un commandement américain, une coalition internationale auquel ont participé d'ailleurs un bataillon français, le bataillon Montclar, du nom de du général qui le commandait, qui avait d'ailleurs accepté d'être rétrogradé militairement pour être sous les ordres de troupes des Nations Unies. Et ce sera une guerre qui va faire 2 à 3 millions de morts. Ce qui à l'époque, si l'on pense que la Corée du Nord à 10 à 11 millions d'habitants et le sud à peu près un peu plus du double et avec des dégâts qui sont essentiellement basés au nord donne à peu près une idée de ce que va être cette guerre. Donc au début c'est une guerre de mouvement, des troupes des Nations Unies sous commandement américain arrivent quasiment à la frontière chinoise, là c'est l'entrée en guerre des volontaires du peuple chinois. La République populaire de Chine a été fondée en octobre 49, donc très peu de temps avant. Nouveau retournement de situation avec Séoul, la capitale du sud, qui repasse qui est à nouveau reprise par les forces communistes du Nord et de la Chine, puis une stabilisation du front autour du 38e parallèle. Et finalement, une guerre de tranchées qui va durer 2 ans, de mi-51 jusqu'à mi-53. Les négociations sont extrêmement compliquées, puisqu'en même temps qu'on négocie, on essaie de prendre un avantage décisif, et finalement, la nouvelle ligne de séparation entre les deux États correspond à la ligne de cessez-le-feu, le nom de la ligne d'armistice. Alors, 2 éléments importants. Déjà, il n'y a pas de traité de paix qui ont été signés. C'est toujours un accord d'armistice. La partie, notamment la partie maritime, parce qu'il y a un certain nombre d'îles qui longent la Corée, a été définie unilatéralement par les Sud-Coréens ou surtout par les forces des Nations Unies. Puisque, au fond, les principaux incidents de frontières qui vont émailler, malheureusement, de trop de morts, la situation de part et d'autre de la Corée, auront lieu, justement, autour de ces îles qui sont contestées. 1953, fin de la guerre de Corée, une guerre qui aboutit à la utilisation du napalm sur un usage intensif. Ça, c'est quelque chose qu'on voit notamment lorsqu'on se rend en Corée du Nord. Usage d'un centre d'armes chimiques. Les Américains ont longtemps dit que tout ça était de la propagande communiste. Aujourd'hui, on le sait par des archives déclassifiées qu'il y a bien eu des utilisations d'armes chimiques, notamment des savants qui ont été envoyés en Corée pour récupérer un centre de vecteurs, soit animaux, soit petits mammifères, soit des insectes qui seraient des vecteurs, au minimum sur une base expérimentale, alors je ne sais pas ce qu'on peut appeler expérimental dans une guerre, ça, on a des éléments là-dessus sur l'affaire Frank Olson. Frank Olson, c'est un savant qui travaillait pour les dossiers de la CIA, qui à la fin a été tué et défenestré avec un usage notamment du LSD qui en quelque sorte s'était révolté contre l'usage qui avait été fait à des armes chimiques. L'affaire Olson a été peu après la fin de la guerre de Corée. Ce qu'il faut donc voir, c'est donc un pays détruit, nord comme sud, mais le nord encore plus fortement que le sud, qui va aboutir pendant la guerre à mettre en place un certain nombre de modes de vie qui vont être souterrains. C'est ce que fait notamment l'unique coproduction franco-nord-coréenne à jour, Moran Bong, qui est l'histoire d'une troupe de théâtre au nord pendant la guerre. Et c'est aussi un élément qu'il faut savoir. Aujourd'hui, quand par exemple les Américains parlent d'une intervention au nord pour récupérer les bombes nucléaires, il faut savoir qu'un certain nombre d'armes déjà sont disséminées et qu'ensuite les Nord-Coréens sont prêts à mettre en place une nouvelle vie souterraine en cas d'attaque américaine, qu'elle soit ou non utilisée, accompagnée de l'utilisation d'armes nucléaires. Autre élément qu'il faut savoir, les Américains envisagent à l'époque d'utiliser l'arme nucléaire à nouveau, donc moins de 8 ans, moins de 10 ans après Hiroshima. Major MacArthur sera désavoué dans cette utilisation. L'idée était de faire une ceinture de cobalt radioactive entre la Corée et la Chine pour empêcher la venue de troupes de troupes chinoises et surtout qui aurait laissé cette zone impossible de toute vie humaine pendant une période extrêmement longue. Heureusement, l'arme nucléaire ne va pas être utilisée. Il y aura à l'époque, toujours dans cette foulée, l'apogée du macartisme aux États-Unis. La peur du rouge est intimement liée à la guerre de Corée, et également une guerre qui a eu ses répercussions en France, puisqu'à l'époque, le Parti communiste et le mouvement de la paix appellent à refuser la guerre en Corée. Les manifestations contre le général Ridgway, qui à l'époque donc commandait les troupes américaines lors d'une visite à Paris fin mai 52, aboutit à de nombreuses arrestations, aussi deux morts, puisque des manifestations non autorisées, à l'époque les seules manifs autorisées, c'est celle du 1er mai, place de Stalingrad. Alors il faut d'ailleurs savoir que la Sion d'amitié franco-coréenne souhaiterait apposer une plaque là où sont tombés les morts de la guerre de Corée, mais cette fois-ci du côté pacifiste. Ce qui va également se passer, c'est que la Corée et donc son dirigeant Kim Il-sung ne seront pas favorables du tout au rapport Khrouchtchev, qu'ils vont voir comme une vision révisionniste. Ce qui ne va pas forcément placer les Nord-Coréens du côté chinois, puisqu'ils considèrent que les Chinois ont une tendance aventuriste et gauchiste. Il faut savoir que pendant la révolution culturelle, les gardes rouges chinois condamnent le millionnaire Kim Il-sung, condamnent ces tendances qu'ils estiment nationalistes et petites bourgeoises, et la Corée du Nord va toujours avoir cette volonté d'essayer de se maintenir à distance de ces deux grands et puissants voisins. Et c'est quelque chose qu'il faut voir, c'est que la Corée du Nord n'a jamais été un état fantoche de la Chine, et que même pendant la guerre de Corée, les volontaires du peuple chinois laissent de côté les généraux coréens, nord-coréens. Ce qui va aboutir à une méfiance durable, c'est-à-dire ce sont des relations d'intérêt. Après, on va célébrer à l'envi l'amitié sino-coréenne, sino-nord-coréenne, mais il n'y a jamais eu de totale confiance des nord-coréens vis-à-vis des Chinois, ni d'ailleurs des Chinois vis-à-vis des nord-coréens. Dans les années qui suivent le rapport Khrouchtchev, d'ailleurs, les Chinois encouragent, vont tenter de mettre en place des éléments dits pro-chinois avec les soviétiques, ce que Kim Il-sung ne va pas accepter, avec une ingérence directe dans les affaires intérieures de la Corée du Nord. C'est aussi à cette époque que la Corée du Nord, ne voulant pas être victime, ou du moins instrumentalisée par les débats entre soviétiques et chinois, va développer sa propre idée, les idées du Duce, qu'on peut traduire par un terme d'autosuffisance, qui vont être développées par Kim Il-sung, le président Kim Il-sung et son successeur Kim Jong-il, et qui sont en quelque sorte, on va dire, un prolongement du marxisme. Aujourd'hui, la Corée du Nord ne se réclame plus du marxisme, ni a fortiori du marxisme-léninisme. On ne trouve pas de portrait ni de Marx ni de Lénine. Les derniers portraits qui étaient sur la place Kim Il-sung ont été décrochés en 2012 pour le 70e, pour le 100e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, n'ont pas été raccrochés après. Alors, donc à la fois, on se trouve devant un État qui ne se revendique plus du marxisme, mais qui en même temps a une vision politique, notamment dans ses structures politiques, qui est infiniment plus proche des démocraties populaires telles qu'elles ont pu être créées. Donc on a en quelque sorte une sorte de marxisme dans les références, y compris dans l'enseignement de l'économie fait une part importante au marxisme, mais qui ne se revendique plus en tant que tel. Les Coréens, les Nord-Coréens, se revendiquent du socialisme, d'un socialisme à la coréenne. S'il fallait trouver une référence, on pourrait plutôt parler d'un développement autonome tel que l'a pu le faire la Yougoslavie de Tito, ou tel que l'Albanie d'Enverja, c'est encore plus compliqué parce que l'Albanie d'Enverja se revendiquait du marxisme-léninisme, ou plus proche de nous, d'une voie française vers le socialisme, tel qu'a pu en parler par les Français dans les années 70. Par contre, ce qui est évident, c'est que les Nord-Coréens sont membres des congrès des partis communistes ouvriers. Ils ont également mis en place en 92 la déclaration de Pyongyang qui considère que si le socialisme a failli en Union soviétique et la démocratie populaire, c'est notamment par manque d'éducation au socialisme, par ne pas avoir mené suffisamment loin le travail idéologique pour convaincre les masses de la supériorité du modèle socialiste, mais aussi les années 90, ça correspond après la chute de l'Union soviétique et la fin d'un nombre d'accords de troc avec les démocraties populaires, des difficultés économiques fondamentales qui tiennent une situation d'embargo, qui tiennent aussi un certain nombre d'erreurs de gestion. Les Nord-Coréens n'ont pas vu arriver les catastrophes climatiques qui auraient nécessité une adaptation et n'ont pas eu à la fin suffisamment de réserves, notamment de réserves en céréales, la Corée ayant un système agricole fondé déjà sur le riz mais aussi le maïs, qui est assez important, sur des zones qui sont montagneuses. Et ça aboutira dans les années 90 à ce que Enoch Cohen appelle la dure marche, c'est-à-dire un effondrement économique, mais aussi un effondrement tout court. On estime qu'il y a plusieurs centaines de milliers de morts sur cette période. Cuba a connu à peu près la même situation. L'avantage de Cuba, c'est qu'elle n'est pas sous la même latitude. La Corée est aux limites de la Sibérie. Et on va avoir des organismes extrêmement affaiblis. Et d'ailleurs, quand les Nations Unies et les organisations unies et les ONG arriveront, les organismes sont trop faibles pour pouvoir sauver toute une partie de la population, notamment dans la partie nord de la péninsule. Alors, c'est important parce que cette disette alimentaire ou cette famine, dont les chiffres aujourd'hui sont estimés entre 500 000 et 1 million de morts sur un pays de 23 millions d'habitants, c'est considérable. Et c'est pas non plus les famines du Moyen-Âge. Hein. Les famines du Moyen-Âge en Europe tuent jusqu'à un tiers de la population. Il faut être conscient qu'on a quelque chose qui est absolument dramatique, mais ce sont les images qu'on va revoir aujourd'hui. Dans les médias, on nous présente souvent ces images des années 90 ou début 2000. Aujourd'hui, la Corée du Nord reste un État qui reste fragile au point de vue alimentaire, qui est un État qui n'est plus au niveau de l'Afrique subsaharienne, mais où on est à 2300-2400 kilories par habitant et par an, ce qui correspond à peine mieux que des situations comme le Bangladesh, pays qui sont donc toujours à la limite de la disette alimentaire. D'un autre côté, c'est un pays qui, sur le plan de l'éducation, est totalement alphabétisé et qui aboutit également, sur la base de la santé, une espérance de vie à la naissance qui est de 70 ans. 70 ans à la naissance, ce n'est pas l'Afrique subsaharienne. C'est beaucoup mieux que l'Inde. La Russie était en dessous, vient de redépasser, notamment par des progrès qui ont été faits dans la lutte contre l'extrême pauvreté en Russie ou le fléau qu'est l'alcoolisme. C'est moins élevé que la Chine, mais là aussi, c'est un pays qui est dans la moyenne mondiale si on prend des indicateurs sanitaires. Donc, à certains égards, si l'on prend le niveau de développement de l'économie, on est un pays qui est entre la limite des pays les moins avancés et le niveau des pays en développement, ce qu'on appelle les pays à revenus intermédiaires tranche inférieure, c'est-à-dire par rapport à la moyenne mondiale, c'est-à-dire des pays qui sont en dessous. Donc il est à la limite des deux pays, c'est pas un pays dans les moins avancés, mais c'est surtout un pays qui a une économie qui est soumise à un embargo, qui est une économie sous sanction, et avec des sanctions qui, prises en 2017, sont les plus importantes au monde jamais mises en place sous l'égide des Nations Unies. Alors comment en est-on arrivé à ces sanctions et comment en est-on arrivé au programme nucléaire? Les Nord-Coréens ont retenu de la crise des missiles de Cuba qu'il ne fallait pas avoir confiance dans une grande puissance, quels que soient par ailleurs les accords de défense signés avec l'Union soviétique et la Chine, et qui d'ailleurs sont toujours à jour avec la Chine. Donc ils ont déduit qu'il faut essayer de mettre l'accent sur l'armée, ce qui va aboutir à un développement simultané des forces armées et de l'économie, avec une armée qui est l'une des plus importantes au monde rapportée à la population, un service militaire qui dure généralement entre 7 et 10 ans pour les hommes et qui était mis en place pour les femmes sur une durée plus courte, mais avec une vision qui est extrêmement pragmatique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé le baccalauréat, que tout le monde passe, vous passez des examens d'entrée à l'université, et si vous échouez, c'est l'armée. C'est d'ailleurs le service militaire pour les femmes qui est plus récent, rappelle quelque chose qu'on peut trouver dans d'autres États qui est sur un pied de guerre permanent. Certains disaient, ça rappelle un peu, par exemple, ce que peut faire Israël. Israël, on a un peu la même situation avec également, c'est quelqu'un qui était allé, c'était quelqu'un qui était admirateur du Mossad, comme on a dit, l'association d'amitié franco-coréenne, où il n'a pas réadhéré. Hein. C'était très dur d'ailleurs de faire prendre une adhésion pour faire le voyage. Puis c'était compliqué parce qu'en plus, dès qu'il voyait des Iraniens, il avait envie de les tuer. Bon, c'est compliqué la politique. Bon, il y a des accords hein, qui sont faits entre Iran et Corée du Nord hein, qui existent. Et toujours est-il donc que la Corée du Nord est un pays où l'armée est aussi participe au développement de l'économie. L'armée est une force économique. Elle possède une partie de l'économie dans des proportions qui ne sont pas connues puisque la Corée du Nord ne publie plus de statistiques économiques de façon régulière. Mais c'est aussi l'armée, d'ailleurs c'est ce qu'on voit quand on va sur place, un centre des réalisations sont faites par l'armée. Et ce que retiennent les Nord-Coréens, donc ils partent du principe qu'ils ne peuvent pas compter sur l'Union soviétique et la Chine, et vont développer assez tôt un programme d'armes nucléaires avec une stratégie qui est celle de la dissuasion nucléaire que l'on retrouve, qui est d'ailleurs très proche de la dissuasion française. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que les Nord-Coréens nous demandaient des textes sur la doctrine nucléaire française. Donc je leur ai renvoyé depuis le général de Gaulle jusqu'aux doctrines les plus récentes. Et les Nord-Coréens vont réussir en partie avec des transferts de technologie des Soviétiques, mais aussi en récupérant un certain nombre de savants post-soviétiques après 1991, vont réussir progressivement à mettre en place donc une arme nucléaire, au point d'avoir testé une bombe à hydrogène en septembre dernier. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir l'arme nucléaire, il faut aussi avoir ses vecteurs. Et aujourd'hui, ils ont aussi développé une capacité balistique, et on sait maintenant, par les progrès qui ont été faits dans une technologie qui n'est pas la même, mais qui est en partie commune à la technologie spatiale, qu'ils sont capables d'atteindre le territoire américain. Et la fission nucléaire, c'est empêcher un autre État de pouvoir vous frapper, donc en le menaçant d'une contre-riposte qui serait telle que personne ne l'attaquerait. Alors, ce développement nucléaire s'est accéléré avec la guerre d'Irak en 2003, la guerre de Libye en 2011, qui a montré aux Nord-Coréens qu'on ne peut pas avoir confiance dans les Occidentaux, et que la seule façon finalement de dissuader toute attaque, c'est d'avoir eux-mêmes leur propre vecteur nucléaire. Autre élément qui est intéressant, c'est que leurs forces conventionnelles, ayant des matériaux de tous âges, dont certains très vétustes, ne souffrent pas la comparaison par rapport à l'armée sud-coréenne, en plus épaulée par 28 000 soldats américains. La fission nucléaire, d'un point de vue économique, est presque moins coûteuse que l'entretien d'une force conventionnelle qui est extrêmement importante. On a 700 avions de combat, on a un nombre de chars qui est extrêmement élevé, on a une armée qui numériquement est très nombreuse, mais dont le principal atout est justement cette dissuasion nucléaire, dont on estime aujourd'hui, et là je parle des experts, qui est opérationnelle. Il y a un doute notamment sur la rentrée des missiles balistiques dans l'atmosphère, mais il semble qu'en tout cas l'essentiel objectif soit aujourd'hui atteint, et que ce soit bien le territoire américain qui soit à portée de missiles. Ce qui a surpris, pris de court les experts américains, qui ne s'attendaient pas à des progrès aussi rapides, et qui surtout avaient mis en place, sous l'égide des Nations Unies, depuis le premier essai nucléaire de 1996, nord-coréen, un programme de sanctions ciblé sur le militaire, également sur le luxe, mais qui devait empêcher tout progrès. Ces progrès ont continué, avec un nombre de coopérations. Il y a une coopération balistique, c'est un mystère pour personne, entre les Nord-Coréens et les Iraniens. On sait d'ailleurs que alors est-ce qu'il y a une coopération jusque dans le programme nucléaire, ça c'est des points qui sont discutés, comme la coopération qui a été faite avec la Syrie qui aboutit à des bombardements israéliens où seraient morts un certain nombre d'experts, y compris d'experts nord-coréens au début des années 2000. Ce qui est en tout cas évident, c'est que la Corée du Nord affirme ne pas être un état proliférant, en tout cas dans le domaine nucléaire. Balistique c'est autre chose, et donc a fortiori à des entités qui ne seraient pas étatiques. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre, la Corée du Nord a évidemment dénoncé ces attentats, comme elle le fera régulièrement sur un centre d'attaque terroriste. La Corée du Nord donc explique qu'elle ne voit pas pourquoi elle est le seul État doté de l'arme nucléaire qui souffrirait d'un régime de sanctions, puisque le Pakistan, Israël ou l'Inde sont des pays qui sont dotés de l'arme nucléaire sans faire partie du club des puissances nucléaires. Et aujourd'hui, elle considère que l'arme nucléaire lui permet de négocier sur un pied d'égalité avec les États-Unis. La question qui va se poser, c'est est-ce que de l'autre côté, on a envie de négocier? Quand on regarde l'histoire américaine, les États-Unis négocient avec des pays qui sont leur égo d'un point de vue stratégique, avec l'Union soviétique, avec un désarmement qui est simultané, jamais avec des États qui sont plus faibles qu'eux. Et la disproportion de force est considérable. Quand l'on parle du budget militaire, que l'on parle du nombre de têtes nucléaires, on est dans un rapport de 1 à 100. Ce qui d'ailleurs permet de relativiser l'idée d'une attaque nord-coréenne sur les États-Unis. Comme l'ont dit à plusieurs reprises les Nord-Coréens et des visiteurs étrangers, jamais nous n'attaquerons les États-Unis. C'est une folie. Attaquer les États-Unis, c'est s'exposer à une autre attaque. Notre but, c'est de dissuader une attaque en premier. Alors, élément qui n'est pas toujours su des médias, les médias nous parlent depuis maintenant plusieurs semaines est-ce que la Corée du Nord va attaquer? Est-ce que la Corée du Nord est irrationnelle? Est-ce que Kim Jong-un, qui est complètement fou, ne va pas forcément appuyer sur le bouton nucléaire, même si Donald Trump en aura un plus gros que lui, selon les propos du président américain? Il faut un moment être réaliste, c'est une situation qui aujourd'hui a atteint un point où il est très improbable que les Nord-Coréens aient des armes nucléairement, en tout cas pas unilatéralement, et pas au début d'un cycle de discussion. L'idée d'un certain nombre de membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie, c'est déjà de recréer les voies du dialogue avec un double moratoire. Plus d'exercices militaires américano-sud-coréens d'un côté, plus d'essais balistiques, d'essais de tirs balistiques ou d'essais nucléaires côté nord-coréen, pour essayer d'aboutir à recréer les conditions d'une confiance. Les Américains disent qu'ils ne sont pas hostiles, sauf qu'on l'a vu au moment des Jeux Olympiques de Pyeongchang, ils ont parlé, à l'avant-veille de l'ouverture des Jeux, de renforcer les sanctions comme les Nord-Coréens n'en ont jamais vu. La logique des États-Unis est de se dire les sanctions vont mettre à genoux les Nord-Coréens, nous négocierons en position de force. Certes, sauf que le comité des sanctions des Nations Unies n'a pas les moyens de tout vérifier. Et quand même, il aurait les moyens, la Chine ne contrôle pas tout ce qui se passe à ses frontières. Et après, on voit tout phénomène d'État qui est maintenu sous pression, ou même de tout individu qui est maintenu sous pression, à savoir des règles de contournement. Et ce qu'a d'ailleurs dit très justement Vladimir Poutine, il a dit de toute façon, les Nord-Coréens seraient réduits à manger de l'herbe, ils continueraient le programme nucléaire. Il considère que le programme nucléaire est pour une assurance vie. Donc, croire que les Nord-Coréens vont désarmer unilatéralement, croire qu'il va y avoir des révoltes internes en Corée du Nord sous l'effet des sanctions, relève du rêve de diplomates, et surtout d'une théorie qui était très à la mode après les années 90, la théorie de l'effondrement. La Corée du Nord va s'effondrer, la Corée du Nord va s'effondrer. Et c'est vrai que les statistiques économiques sont désastreuses, l'effondrement arrive, ben la Corée du Nord ne s'est pas effondrée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une croissance économique qui certes n'est pas faramineuse, mais est supérieure à celle de la population, qu'il y a une certaine élévation du niveau de vie, qu'est-ce qui aujourd'hui provoquerait cette révolte qui n'a pas eu lieu ? Des tensions internes au système politique, notamment un coup d'état militaire, c'est une hypothèse possible. On a vu que les tensions internes qui existent au sein de l'appareil d'État ont abouti à l'exécution de l'oncle Jang Song-taek en 2013. L'idée d'une révolte est, disons-le tout net, assez improbable, sauf à penser un peu comme dans l'Empire romain, une garnison commence à marcher sur Pyongyang ou que la garde prétorienne se révolte. C'est mal connaître qu'aujourd'hui le système en Corée du Nord est un système où il y a plusieurs niveaux de pouvoir. Il y a le pouvoir de l'armée, il y a le pouvoir des civils, il y a un certain nombre de pouvoirs de liens qui sont interfamiliaux, mais il y a une certaine, j'ai envie de dire, homogénéité. Quel est l'intérêt d'une partie de l'élite de se révolter contre une autre partie en pouvant monter un coup d'État? C'est aujourd'hui qu'il soit civil et militaire. Aujourd'hui, c'est une hypothèse qui est hautement improbable. Ce qui serait plus probable, c'est que progressivement, on voit apparaître une certaine ouverture qui puisse aboutir à un changement. C'est ce qui s'est passé en Albanie ou dans d'autres pays. Ça, c'est une hypothèse qui est assez probable. Et c'était d'ailleurs la théorie des Sud-Coréens, c'est-à-dire d'essayer, quand les démocrates ont été au pouvoir en Corée du Sud de 1990 à 2008, d'aboutir à une ouverture progressive pour essayer d'amener la Corée du Nord à se reconnecter à la communauté internationale, d'essayer d'avoir progressivement une ouverture et sortir d'une mentalité de forteresse assiégée qui existe chez les Nord-Coréens, il ne faut pas se cacher. Après, nous avons des dirigeants qui connaissent beaucoup mieux le monde extérieur qu'on ne veut le croire, qui surtout n'ont pas l'aléa des alternances politiques pour mettre en place un système politique qui peut justement compter sur ce que veulent et ce que font leurs partenaires ou leurs adversaires. Et de ce point de vue-là, les Jeux Olympiques de Pyeongchang ont été, en Corée du Sud, une opération remarquable. La Corée du Sud a un nouveau président, élu en 2017, après la chute de la présidente, dont on peut d'ailleurs montrer une photo parce qu'elle venait souvent en France, Madame Park Geun-hye. Madame Park Geun-hye a été décorée du titre de docteur honoris causa, ici, dans ses locaux. Elle aimait beaucoup la France, où elle avait fait ses études pendant un an, mais elle aimait aussi beaucoup emprisonner les opposants, dirigeants d'une des deux principales centrales syndicales, un centre de militants sud-coréens, des répressions, des manifestations qui aboutissent quand même à un mort, Baek Nam-gi, suite à un usage du canon à eau immodéré, la vie même du rapporteur des Nations Unies pour les droits de l'homme. La Corée du Sud, il faut le savoir, est quand même le pays où il y a quand même 600 objecteurs de conscience emprisonnés sous les verrous, ce qui représente 90% des chiffres renseignés dans le monde pour les objecteurs de conscience. La Corée du Sud est un pays où on dissout un parti, principal parti de gauche, représenté au Parlement sur la base d'un procès truqué mené par les services de sécurité qui sont pléthoriques. Alors certes, il y a des alternances politiques, certes, il y a des espaces démocratiques, mais la Corée du Sud n'est pas tout à fait une démocratie parlementaire. Et pendant le mandat de Mme Park, les choses se sont assez nettement aggravées, ce qui n'a pas empêché François Hollande de la recevoir à plusieurs reprises et de justifier, on a les preuves par des questions écrites, que les opposants, il y avait quand même un procès pour les mettre en prison. La France n'a pas tenu un seul mot de solidarité avec les opposants sud-coréens emprisonnés, à la différence des États-Unis. Le rapport des départements d'État américains sur les droits de l'homme a plusieurs fois accroché la Corée du Sud pour son bilan en matière de droits de l'homme, qui était inquiétant et qu'une dérive autoritaire. Jamais la France ne l'a dit publiquement. Jamais. La France considérait que l'on partage des valeurs démocratiques communes Et donc, M. Hollande s'est singularisé pour cette reconnaissance vis-à-vis de Mme Park. D'ailleurs, son premier déplacement à peine non-président était en Corée du Sud, financé par les Chebol. Il avait pourtant promis, quand il était président, que jamais, lui au grand jamais, il ne ferait de conférences rémunérées. Il dit que c'était une prise en charge et que c'était l'usage. Certes. Mais pour revenir sur notre sujet, donc la Corée du Sud est un pays qui a également des relais, qui est extrêmement proche des États-Unis et des pays anglo-saxons, en tout cas de l'appareil d'État de ces pays. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard que là, des défecteurs nord-coréens les plus loquaces, l'ancien numéro 2 nord-coréen à l'ambassade britannique, Taeyong-ho, homme par ailleurs tout à fait agréable et intelligent, je me rappelle avoir parlé avec lui il y a une dizaine d'années, quelqu'un de tout à fait ouvert, au lieu de faire une simple défection en Angleterre, ce qu'aurait pu faire, va en Corée du Sud pour reprendre des éléments de langage qui sont, hélas, ceux des services de renseignement et de la nébuleuse néoconservatrice. Une grande partie du discours sur la Corée du Nord, qui est un pays qui vit sur le pied de guerre, qui est un pays qui a une logique militaire, qui est un pays fortement militarisé, ne nous le cachons pas, un occidental qui va vivre en Corée du Nord aura beaucoup de mal à accepter un mode de vie aussi organisé, aussi structuré, aussi organique dans une forme de communauté. Mais c'est un pays qui ne mérite pas ce qui a été dit. Je vais reprendre un exemple assez simple. Récemment, une grande chaîne de télévision, France 2, présente la Corée du Nord comme un État mafieux. Un État où qui serait un trafic de drogue parmi les plus grands au monde, que tous les vierges de montagne seraient dans la réalisation d'éléments de drogue synthétique. Il y a eu des éléments de ce type, notamment des diplomates ont été pris la main dans le sac à faire des trafics divers. Mais quand on nous sort un chiffre, on nous sort 40 millions de dollars. C'est effectivement une somme importante. Pour un PIB qui est à 10 milliards, je ne sais pas ce dont il faut parler. Et surtout, quand on sait que Mme Park est tombée parce que sa confidente et sa gourou, c'est des distorsions de fonds de 70 millions de dollars américains, là, personne ne parle d'État mafieux. Pourtant, là, on avait une organisation mise en place par son conseiller qui vient d'écoper une peine de 5 ans de prison, par sa conseillère une peine de 20 ans, et par elle-même qui est derrière les barreaux. Alors, l'élément rassurant, c'est que la Corée du Sud, suite à des manifestations, a chassé Mme Park. C'est vrai qu'en Corée du Nord, il n'y a pas de manifestations de rue qui aboutissent à changer le régime. Mais, à un moment, il faut aussi voir qu'on est dans des pays, s'il faut les connaître, il faut essayer de sortir d'un ensemble de prismes. Le prisme sud-coréen, qui est un prisme où les néoconservateurs sont présents, mais aussi un prisme français, ce n'est pas, ou un prisme communiste, et ça, ce n'est pas forcément simple. Je vais prendre un exemple. Le Parti communiste français a toujours eu des relations difficiles avec le Parti du Travail de Corée. C'est lié en partie à une histoire liée aux relations entre les deux partis. Il y a eu, par exemple, à Pyongyang, des relecteurs, jusqu'au début des années 90, des ouvrages. Et l'un d'entre eux, Jacques Sédillo, choisi par le PCF, finira en camp de rééducation. En 7 ans, il en sortira dans un tel état d'affaiblissement qu'il mourra avant son retour en France. Ce qui, évidemment, n'a pas forcément amélioré les relations bilatérales. Mais il y a aussi d'autres éléments. Ce que les démocraties populaires considèrent comme un nationalisme nord-coréen est très mal perçu. On le sait aujourd'hui par des archives déclassifiées, notamment du Woodrow Wilson Institute, qui travaille sur des archives est-allemandes, hongroises. On sait que l'URSS et démocratie populaire d'Europe de l'Est avaient une méfiance vis-à-vis des Nord-Coréens, qui tendaient, selon eux, à sous-estimer les apports des aides qui ont été apportées. Mais le Parti communiste français, après avoir une position de solidarité, à partir de 1993-1994, ne veut même plus en entendre parler, il n'y a même plus un dialogue qui est possible. C'est-à-dire que l'on passe, finalement, d'un extrême à l'autre. Et c'est finalement assez dommage qu'on ne puisse pas avoir une discussion sur la question de la paix, sur la question de comment essayer d'accompagner une évolution. Nous, en tant que question d'amitié franco-coréenne, on répond, on demande des Nord-Coréens s'ils veulent avoir des sujets, je veux dire, en économie, des sujets en architecture, des échanges universitaires. Force est de constater que ce n'est pas forcément la position, non seulement du PCF, mais de la France. Je prends un exemple. Un de nos adhérents est maître d'une conférence en mathématiques à l'Université de Lorraine. Il voit que dans son domaine de mathématiques, mathématiques fondamentales, il y a un Nord-Coréen qui l'écrit, le Nord-Coréen lui répond, à sa surprise, par mail, il travaillait avec des universités chinoises, et donc il a commencé à mettre en place un programme d'échange. Je dis bien un programme scientifique, un programme fondamental. Il n'y a rien à voir avec des problèmes balistiques ou nucléaires. Le fonctionnaire sécurité défense lui a refusé son accréditation avec un autre collègue et donc ils y sont allés sur leur propre denier. Les ordres viennent de très haut. Comment veut-on qu'un pays puisse intégrer la communauté internationale si on l'empêche si on l'empêche de toute coopération. Un autre exemple, Étienne Manac, qui a été un des premiers ambassadeurs de France en Chine, qui a été directeur France-Asie, et dont les mémoires d'Outre-Asie, d'Extrême-Asie, pardon, sont un excellent récit de ses relations. Étienne Manac est chargé, dans les années où la France établit des relations diplomatiques, qui ne sont toujours pas complètes d'ailleurs, on a des deux États-Unis européens, mais pas à la voir, est chargé des relations avec la Corée du Nord. On lui demande expressément de limiter les échanges au strict minimum. On ne veut pas d'échanges avec la Corée du Nord. Et la France, finalement, aurait pu avoir, sur la question nord-coréenne, puisqu'avec les États-Unis et le Japon n'ont pas de relations diplomatiques complètes, aurait pu mettre en place ce type d'échange. Malheureusement, il n'y a jamais eu de politique cohérente, on se demande même s'il y a eu une politique tout court. Vouloir essayer d'exister, ça suppose de connaître votre partenaire, ça suppose d'avoir une connaissance. Le Coran n'est plus enseigné au Quai d'Orsay, n'est plus dans la langue d'apprentissage en catégorie A, il l'a été en catégorie B pendant quelques années. Qui sont les spécialistes de la Corée au Quai d'Orsay? Ce sont des sinisants ou des japonisants. La colonisation japonaise de la Corée, avec un certain nombre d'atrocités, notamment l'esclavage sexuel des femmes de réconfort coréennes, qui sont quand même plusieurs centaines de milliers de victimes, a laissé des traces extrêmement indélébiles. Mais les Japonais le rendent bien en Nord-Corée. Notamment les Japonais qui ont été enlevés par les services secrets nord-coréens, il y en a au moins 17, dans les années 70. Certains vont dire que c'est la paille et la poutre entre les 17 d'un côté et des centaines de milliers de l'autre. Il n'empêche, le discours japonais sur les kidnappés, qui est une réalité, hein, qui est une réalité qu'on ne peut pas accepter, d'ailleurs que les Nord-Coréens eux-mêmes ont reconnu, est un discours tellement présent que les Japonais ont un ministère qui ne s'occupe que de ça, des émissions à la télé japonaise qui parlent de ça toutes les semaines, et voire ils essaient de convaincre que des Françaises auraient été kidnappées, on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas la date, on a seulement des récits d'un certain nombre de transfuges des services nord-coréens, qui ne sont pas ce qu'on peut appeler les personnes les plus fiables, mais qui vont donner sur France 3 une émission de première partie de soirée qui va nous faire des millions de téléspectateurs. Les Japonais ont un contentieux avec les Coréens, notamment avec les Nord-Coréens. Or, ce sont des spécialistes du Japon au Quai d'Orsay qui vont être en poste sur les questions coréennes. Malheureusement, leur proximité avec des Japonais ne les amène pas toujours à être forcément les plus objectifs ou les plus neutres. Les Chinois sont généralement des gens plus ouverts, sauf qu'il y a un petit défaut chez les Chinois, c'est de voir toujours le monde au prisme du monde chinois. Comme si la Corée, qui était effectivement de l'ère culturelle de la Chine, comme d'ailleurs le Vietnam, était finalement une sorte de Chine en miniature. Là aussi, c'est un peu plus compliqué, il y a une identité nationale coréenne. Il y a, on l'a vu au jeu de Pyeongchang, un sentiment des Coréens d'appartenir à une même nation, avec l'idée d'une division vécue comme un drame national. Pour comprendre la Corée, on ne peut pas non plus se rendre à la Pyongyangologie, qui est un peu comme la soviétologie, un domaine où on décalque des connaissances qu'on a déjà vues. Non. Il faut aussi faire preuve d'un peu de modestie. On ne connaît pas aujourd'hui le mode de fonctionnement du Parti du Travail de Corée. On ne sait pas quels sont les centres de décision. C'est très récent qu'on envoie le dirigeant Kim Jong-un avec, sur des instances de direction, avec le bureau politique en format restreint. C'est l'une des photos qu'on n'avait pas. On ne sait pas quand les instances de direction se réunissaient, si quand bien même elles se réunissaient. Si effectivement on cherche à savoir qui sont les conseillers, qui sont les numéros 2, il y a beaucoup d'histoires sur les numéros 2, on ne le sait pas. Voilà, donc il faut accepter un moment une forme de modestie qui n'a rien d'ailleurs d'exceptionnel, ce que disait d'ailleurs Robert Carlin, qui est un ancien expert de la CIA, qui là, sur le portage de France 2, disait des choses de fort bon niveau, parce que c'est pas parce qu'il est la CIA qu'il n'a pas de choses intelligentes à dire, et qui disait il faut accepter, dans le cas de la Corée du Nord, de faire preuve de modestie. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On fait preuve d'hypothèse. Donc ceux, par exemple, qui disent que c'est le département de l'organisation qui tire les ficelles, thème tenu par un poète, Jang Jin-sung, qui est un des « Dear Leader », qui est un des ouvrages les plus lus aussi sur la Corée du Nord en France, ayons la modestie de reconnaître que c'est une hypothèse battue en brèche, y compris par les experts. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on ne peut rien faire. Ce qui ne veut pas forcément dire, c'est aussi le rôle d'action d'amitié franco-coréenne, que l'on n'a absolument aucune marge de manœuvre pour savoir ce qui peut être fait. Déjà, l'association a un mot. Elle a été créée en 1969. 68, De Gaulle décide d'établir des relations diplomatiques au niveau de bureaux commerciaux qui vont être établis au niveau d'une délégation générale de Corée du Nord en France en 84. Il faudra attendre 2011 pour qu'on ait une représentation diplomatique permanente française en Corée du Nord suite à une mission confiée à Jacques Lang par Nicolas Sarkozy. Jacques Lang, député socialiste, ne pouvait pas franchir le pas de devenir ministre de Nicolas Sarkozy. Par contre, il fera une mission sur l'amélioration des relations avec Cuba, Corée du Nord, Iran. il ira à Cuba, Jacques Lang, qui est ancien professeur de relations internationales, hein, qui est quelqu'un qui est tout à fait calé, et recommandera en 2009 qu'au moins la représentation diplomatique nord-coréenne en France, qui existait mais sous forme d'un bureau du CNPF fin 60, début 70, se mette effectivement en place. Et aujourd'hui, donc depuis 2011, on a une représentation diplomatique, mais qui n'est pas de plein exercice. Il faut savoir que si les Nord-Coréens veulent venir en France, ils doivent payer un billet de train pour aller à Pékin, pour aller voir les services consulaires français en Chine, pour pouvoir avoir leur visa. Ils reviennent ensuite en Chine. Donc en fait, la France ne veut pas que les services, alors que les Nord-Coréens, si vous voulez aller en Corée du Nord, les services consulaires nord-coréens en France sont dans la négation générale. On a ces exemples de petites bizarreries. Il a fallu des années pour que l'association insiste auprès d'autres pour qu'il y ait une page de conseil aux voyageurs. On peut visiter la Corée du Nord, il y a même des agences de tourisme spécialisées. Et non, vous ne serez pas arrêtés. Il y a eu des arrestations d'Américains, notamment l'un qui est mort à son retour de déclinations qui sont dramatiques, mais il n'y a jamais eu de Français arrêtés en Corée du Nord, ou de gens qui ont eu... Alors, vous allez me dire, il y a eu l'affaire Cédillo. C'est vrai. Là, ça remonte quand même à il y a 40 ans. Donc pour des choses aussi basiques que pour d'autres pays, arriver non seulement à avoir une communication qui ne prétend pas à l'objectivité, ça n'existe pas à l'objectivité, mais qui prétend en tout cas donner une vision plus proche du réel que des discours à l'emporte-pièce, et puis surtout voir ce qui peut être fait avant de coopérer avec un autre pays, encore faut-il le connaître, et pouvoir créer les conditions de la coopération, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors on a fait des domaines assez différents, on a aussi travaillé dans le domaine humanitaire, notamment quand il y a des inondations régulièrement, avec le Secours populaire français, qui, pareil, accueille régulièrement des enfants nord-coréens dans le cadre de les oubliés des vacances. Ce programme, les nord-coréens n'ont pas pu venir l'an dernier à la demande express du Quai d'Orsay. Et oui, l'enfant nord-coréen a encore un couteau entre les dents et pourrait représenter un danger pour la sécurité nationale. On a donc un pays qui fait l'objet d'un traitement médiatique sans doute à nul autre pareil. Mais aujourd'hui, ce qui inquiète, c'est non seulement les risques de guerre, même si je crois assez peu, faire une guerre, ça veut dire qu'il faut des troupes au sol pour récupérer les armes nucléaires nord-coréennes, dont on ne sait pas où elles sont. Ça veut dire des supplétifs sud-coréens, parce que les Américains ne vont pas avoir à nouveau 30 000 morts dans une nouvelle guerre de Corée, et les sud-coréens ne veulent pas de guerre. Donc ce qui est plutôt plus probable, c'est d'utiliser l'arme des sanctions, pour essayer en quelque sorte que les Américains aimeraient que les nord-coréens puissent lancer sur ces zones maritimes, contester une première riposte qui permettrait de justifier des frappes ciblées et enfin de rayer d'un coup de bombe nucléaire 25 millions de Nord-Coréens. Aujourd'hui, le véritable risque, ce sont les sanctions. L'UNICEF a lancé fin janvier un appel au secours en disant que ces programmes étaient menacés et que les sanctions avaient surtout effet que les ONG, ou les organisations intergouvernementales ou les organisations des Nations Unies ne peuvent plus travailler. Ils ont dit « nous avons 60 000 enfants qui risquent de mourir de faim ». Ça, c'est une information que vous ne lirez pas dans les médias. Peut-être parce qu'elle n'intéresse pas. Peut-être que 60 000 vies d'enfants nord-coréens ne valent rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est quand j'entends certains néoconservateurs dire « mais Donald Trump doit frapper en premier, car une vie américaine vaut plus que la vie de millions de Coréens. Il a le mandat, en tant que président des États-Unis, de sauver toute vie américaine, qui est la valeur suprême de ce qu'on peut espérer. » Quand on en arrive à un tel degré d'anti-humanisme, nous avons face à nous des gens qui sont dangereux. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce qui me rassure quand je vois les Jeux de Pyeongchang, c'est que Mike Pence, qui est un fondamentaliste américain, qui est donc très proche du lobby néoconservateur, aussi bien que coréen que sud-coréen qu'américain, qui juge qu'il faut venir en Corée du Sud aux Jeux Olympiques avec dans sa valise un réfugié nord-coréen qui souvent vive des bienfaits de la CIA, également le père d'un Américain qui est mort à son tour de Corée du Nord, on peut se dire, et qui refuse, qui a carrément refusé un repas parce qu'il allait se retrouver à la table d'un Nord-Coréen, il y vient, mais il sert la même tout le monde sauf du Nord-Coréen, je me dis que finalement, les risques de conflit et d'escalade sont peut-être plus probablement du côté américain, même si dans une escalade, il faut être deux, hein, parce que généralement, une escalade des tensions, c'est-à-dire qu'il y a action et contraction. Donc aujourd'hui, pour finir avant d'arriver à des questions, ce qu'il y a des combats fondamentaux sur l'association d'amitié franco-coréenne, c'est d'essayer déjà d'avoir un combat pour la paix, un combat aussi contre les sanctions, parce que les deux sont intimement liés, pour la vie des populations nord-coréennes, prendre en otage les populations avec des sanctions qui aujourd'hui toucheraient potentiellement 90% du commerce extérieur, c'est-à-dire 6 milliards de dollars sur un PIB nominal de 20 milliards, donc ça fait moins 30% si les sanctions étaient appliquées. c'est une politique dont il faut dénoncer le caractère criminel. Et ça, bon, bah, c'est une adresse qu'on a lancée au moment de la paix, avant d'essayer de l'élargir pour voir les choses qui pourraient être faites. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Je voudrais quand même laisser suffisamment de temps pour qu'on puisse avoir du temps sur les questions. Merci.
Merci beaucoup.
Alors aussi, Michel,
oui, une question par curiosité, donc pas plus fondamentale, c'est cette histoire.
Oui.
Comment tu interprètes la proposition de Kim Jong-un d'inviter le président?
C'est pas le premier sommet. Quand les démocrates étaient au pouvoir à Séoul, il y en a eu deux. Il y a eu un sommet en 2000 et en 2007.
Et la question annexe,
oui.
Comment tu penses que
ça arrivera.
La Corée du Sud peut réagir?
Alors, Moon Jae-in, le président sud-coréen Moon Jae-in, qui a été élu en mai 2017, a été élu sur un programme de rapprochement avec le Nord. Il a rangé son frein pendant des mois, et comme il a une idée des rapports de force, il a d'une part, il n'a pas pris en les Américains en défaut. Il a même été complètement éclipsé au moment de la tension. C'en était même presque dramatique de savoir que les Sud-Coréens sont en première loge d'un conflit du côté, on va dire, occidental. Et lui le souhaite. Après, ce qu'il fait, c'est que son but est d'essayer de faire bouger les lignes côté américain. C'est-à-dire qu'il ne veut pas donner l'impression, comme l'accusent les conservateurs, hein, qui font quand même 25 à 30% des voix, c'est-à-dire de fissurer l'alliance américano-sud-coréenne. Ce qui est évident, c'est qu'une rencontre aura probablement lieu. Ça, il n'y a guère de doute que la rencontre aura lieu. De savoir quand elle aura lieu, on est au début de mandat, hein. Donc sur un mandat de 5 ans, qui va de 2017 à 2022, ce serait très surprenant que ce sommet n'ait pas lieu. Du côté des Nord-Coréens, il y a évidemment aussi une volonté, non seulement de répondre à la réunification, qui est l'objectif national, qu'on revoit dans les discours, mais aussi de fissurer le front anti-Corée du Nord. C'est évident que les Nord-Coréens ont un intérêt de fissurer ce front. Ils ont aussi, d'ailleurs un élément qui est intéressant, à l'occasion des Jeux Olympiques, un certain nombre de sanctions, non seulement des Nations Unies, mais aussi les sanctions additionnelles sud-coréennes, ont été en partie levées. Leur objectif, c'est d'arriver progressivement à recréer ce climat. Et par ailleurs, c'est là qu'une intelligence tactique. Le moment coréen, il est court. Les Jeux Olympiques se terminent au mois de mars. On s'attend à ce que les manœuvres militaires américano-sud-coréennes recommencent une fois les Jeux Paralympiques terminés, qui auront lieu du 9 au 18 mars. Le moment, il était court. Envoyer des émissaires de haut niveau, c'est aussi il y a relativement peu de temps. Donc, j'ai envie de dire qu'ils n'avaient pas un calendrier aussi ouvert. Et cette proposition, il fallait qu'elle soit formulée assez vite et qu'elle le soit dans un moment qui soit favorable. Les Sud-Coréens n'ont pas répondu immédiatement. Et d'ailleurs, les Nord-Coréens ont été prudents. Ils ont dit au moment où ce sera opportun, hein, le moment venu. C'est une précision diplomatique. Il faut évidemment réunir un certain nombre de conditions. Mais ce qui est évident, c'est que l'idée d'un sommet intercoréen, c'est à la demande des deux précédents présidents, de Park Geun-hye, Mme Park Geun-hye et de Lee Myung-bak. Ils voulaient des sommets intercoréens. Il y a eu des négociations qui ont eu lieu par des canaux de discussion. Ils ne l'ont pas eu. Et les Nord-Coréens ne voulaient certainement pas récompenser la déconstruction de tous les acquis du dialogue intercoréen qui a eu lieu entre 2008 et 2017 pendant les deux mandats conservateurs. Donc ils savent qu'en mettant ça sur la table, en apparaissant en plus comme celui qui le propose, c'est un élément qui apparaîtra. Alors il y a un élément qui est aussi fondamental, qui posera difficulté, c'est non seulement les manœuvres, mais c'est aussi le sort de serveuses de restaurants nord-coréens en Chine qui se sont retrouvées en Corée du Sud. Il semblerait qu'elles ne se soient pas venues de leur plein gré. D'ailleurs, j'ai des gens, des Sud-Coréens qui sont de leur famille, qui me confirment qu'il n'y a aucun contact possible. Cette défection de masse avait été orchestrée à la veille des législatives sud-coréennes de 2016, pour montrer que décidément le régime allait s'effondrer, devait s'effondrer. Il semblerait que ces femmes n'aient pas, en tout cas une partie, ne soient pas parties de son plein gré. Et la moindre des choses serait de leur permettre au moins d'avoir des contacts avec leur famille, de dire où elles souhaitent vivre. Ça, c'est un sujet qui a été levé plusieurs fois par les Nord-Coréens devant les Nations Unies. Les Nations Unies n'ont pas jugé utile la Commission des droits de l'homme des Nations Unies de donner suite. C'est un non-sujet. On a aujourd'hui donc plusieurs thèmes qui sont imbriqués. Et alors la question également, l'autre sujet intercoréen qui viendra très vite, c'est les réunions de familles séparées. La guerre de Corée a laissé des familles avec 100 nouvelles de l'autre côté. Les réunions de familles séparées ont une symbolique très forte. Les Nord-Coréens ont remis sur la table la question des serveuses qui se retrouvent en Corée du Sud. Donc ils estiment qu'elles ont été enlevées. Mais le sommet aura lieu. Le sommet aura lieu, le tout est de savoir dans quelles conditions et comment. Mais ce qui est évident, c'est que les Nord-Coréens, en général, bon, quand il y a un dialogue, c'est pas seulement quand il y a une tension, elles sont à deux. Les Sud-Coréens avaient déjà dit, Moon Jae-in, qu'ils souhaitaient rencontrer les Nord-Coréens quand ils le voulaient. Là, mais pour qu'il y ait un sommet, il faut qu'on soit deux. L'autre élément qui serait très puissant, c'est si c'était le Nord-Coréen qui allait en Corée du Sud. Ça a été le cas en 2000 et 2007. Il y a des possibilités. C'était dit notamment dans l'île de Jeju. L'île de Jeju, c'est un peu la Corse de la Corée. C'est une île qui est séparée du reste du continent par 1850, qui fait 1850 km². Il y a eu un massacre des populations, plusieurs dizaines de milliers de morts, de communistes ou supposés tels, dans les années de la libération, qui pourra avoir lieu. Après, moi, je suis très prudent sur la politique fiction, parce que c'est tellement facile de dire que les choses auraient lieu, il y a des éléments qui peuvent changer. Ce qui est évident, c'est qu'alors qu'on parlait d'une guerre imminente, d'ailleurs c'est assez amusant que la couverture médiatique, le temps de faire les reportages, on a l'impression que la guerre est imminente, bah oui, parce qu'ils ont été, les films ont été montés fin 2017, et malheureusement, c'est plus dans le tempo. Donc, mais c'est évident qu'on a là un moment qui doit continuer, et les Jeux Olympiques offrent une opportunité.
Olivier ?
Je milite avec nous.
Plus fort.
Je milite avec Benoît Kennedy dans la FC et avec Michel. Pour commencer par le Sud, là, en réponse, en écho à la question précédente, que va faire le président du Sud, le président du Sud ? Le seul le sait, c'est vrai. Enfin, ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il maintient en prison au moins un ou une de la politique de l'ère précédente. L'ère précédente, nous avons des instruments construits à Paris, à la cloche, pour faire finir, dans les manifestations à Paris. Là, le peuple coréen a magnifiquement renvoyé dans sa face, nous a fait des révolutions de couleurs. Il avait orchestré en Europe de l'Est, dans la révolution des bougies, j'ai toujours la bougie chez moi. Donc, je me souviens. Maintenant, sur le Nord, pour revenir sur un point idéologique et politique abordé par Benoît, il y a eu des groupes pro-chinois ou pro-soviétiques, nationalistes aussi d'ailleurs, dans le Parti du Travail de Corée. Que ce parti a eu la sagesse de défaire hein, politiquement, contre chinois, contre soviétiques. Ils ont été clairvoyants parce que c'était avant la restauration du capitalisme en Chine, à partir de 1937, avant la destruction du mur de Berlin en 1989, avant la destruction de l'URSS en 1991. Et ça, c'est pour l'aspect politique. Les nationalistes aussi de l'intérieur. Ce n'était évidemment que des nationalistes. Et sur l'aspect idéologique, là, le Duce, pour moi qui ai été nourri de la pensée Mao Tse-Tung, ça ne me détruise pas du tout. Compter sur ses propres forces, le parti commande au fusil et non l'inverse. La dialectique, sur un cercle marxiste, on excusera d'employer le gros mot. La dialectique entre l'économie politique et le développement de l'économie et la force militaire, tout ça sonne tout à fait favorablement à l'oreille. Maintenant les Coréens du Nord savent utiliser aussi toujours dialectiquement et l'entraide à la chinoise l'émulation, pour ne pas dire le stakhanovisme à la soviétique, il y a une affiche sur ce thème-là. Sur la Chine, il n'avait vraiment pas tout. Les gardes rouges n'ont pas fait qu'insulter M. Xi dans son prix militairement au syndicat. Je vous rassure, les syndicats se sont bien défendus. Sur l'URSS, on en a déjà discuté. Maintenant, sur le poutisme, ça mérite peut-être une réunion particulière de ce cercle pour faire vite, je veux dire, un petit tour à quand même tirer les premiers coups de feu du révisionnisme. il n'y a pas plus ce soir. Enver Hoxha, bon, je vais rester poli, ce que je constate, c'est que lui et ses successeurs ont été succédés eux-mêmes par la mafia arabe, un échec épouvantable. Après la controverse sino-soviétique, dont vraiment, à posteriori, on n'a pas besoin, il y a eu la controverse sino-albanaise, comme pitrerie, quoi, enfin, sinistre pitrerie. Quant aux États russes et chinois aujourd'hui, je veux dire, les Coréens savent bien à présent. Sur les sanctions, évidemment, sur le vote des sanctions à l'ONU, sur l'application maintenant des sanctions. Bon, il y avait un texte un peu sibyllin récemment de l'année dernière, concernant un voisin qui n'était pas nommé, certains ont cru que c'était la Russie. À mon avis, c'était plutôt la Chine, enfin, ils savent à quoi s'en tenir. Quant à nos instances pour terminer locales, pour nationales, l'instance universitaire, si on remet le diplôme honoris causa à Mme Park, donc le président de l'université de l'Hydro et le recteur, Mme Park est en prison, eux ne le sont pas encore. Peut-être que la dictature du prolétariat est pourvoir à un jour, un de ces jours. J'ai déjà un âge un petit peu avancé, je suis sûr de ça. Ce sera une satisfaction. Hein. Je me souviens qu'on était très seuls sur la place Saint-Michel à cette occasion-là. Et quant au lobby sud-coréen, il existe en France, hein, puisque certains médias mainstream en France se plaisent à nous traiter avec ces de lobby nord-coréen. Il y a eu un lobby sud-coréen qui a changé de tête, mais qui continue d'exister, qui avait quand même des têtes, qui avait le président de la République française à l'époque, alias François Hollande, qui avait deux ministres, Placé et Pellerin, qui avait la présidente du Conseil régional de l'Île-de-France. Donc, plein de remarques pour plus au monde que pour le recteur et président de l'Université de l'Île-de-France.
Merci, Paul.
Un peu plus fort, Paul.
Quelques objectifs définis pour l'action de l'association d'amitié franco-coréenne. Et effectivement, je pense qu'il y a énormément de choses à faire en France, compte tenu de la manière dont est présentée la position de la Corée du Nord. Mais en tant que président de l'association, finalement, vous avez tenu un langage, un discours un petit peu équilibré et avec des limites. Je le comprends aussi. Mais je pense qu'ici, on peut aller un peu plus loin. Les sanctions économiques décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU sont scandaleuses. Ce sont des mesures de guerre contre la Corée du Nord qu'il faut présenter comme telle. Mais il faut en même temps dénoncer le fait que ni la Russie ni la Chine n'ont posé un veto. Si un des pays du Conseil de sécurité avait posé un veto, il ne serait pas possible qu'il y ait des mesures de rétorsion, des sanctions économiques décidées par l'ONU. De toute façon, les États-Unis les appliqueraient, mais ils ne s'abriteraient pas derrière le drapeau de l'ONU. Et donc, François, que ce ne soit pas la tâche de l'association de l'Union franco-coréenne, mais nous devons dénoncer le fait que la Chine, comme la Russie, n'ont pas posé un veto, même si par derrière, comme vous l'avez dit, ils ne l'appliquent pas strictement, de façon rigoureuse, ce n'est pas une excuse. Et ce problème de l'ONU, finalement, la Corée du Nord le traîne depuis 50. C'est-à-dire que lors de la première, de la guerre de Corée, 50-53, l'intervention des États-Unis s'est faite avec le drapeau de l'ONU. Et il y avait, ça a été une coalition des armées d'un grand nombre de pays ont été, avec le drapeau de l'ONU, dirigée par les États-Unis, tout cette guerre. Et donc encore maintenant, on parle de l'ONU pour ce problème de l'armistice. Et cela, c'est la conséquence d'une position momentanée adoptée du RSS de boycotter le Conseil de sécurité. Si l'URSS n'avait pas boycotté le Conseil de sécurité, ce n'est pas avec le drapeau de l'ONU que cette agression occidentale aurait eu lieu. Mais là, je ne connais pas bien les circonstances qui ont amené l'Union soviétique à ce moment-là à boycotter le Conseil de sécurité. Non, et pour moi, c'est une erreur.
Alors, à l'époque, pour revenir sur ce que j'aurais dû le dire, à l'époque, la Chine, c'était toujours la République de Chine à Taïwan qui occupait le siège chinois. Donc, les Soviétiques n'étaient pas au Conseil de sécurité. Et c'est en l'absence du représentant soviétique que les Américains ont pu faire voter la
Chine, effectivement,
ouais.
À Taïwan.
Ouais.
Et pourquoi elle faisait partie du Conseil de sécurité?
Oui, mais à l'époque, l'URSS boycottait les séances du Conseil de sécurité à cause du fait que c'était Taïwan qui avait le siège chinois. Puisque la République populaire de Chine est fondée le 1er octobre 1949 et les Américains obtiennent que ce soit toujours Taïwan qui reste comme membre permanent du Conseil de sécurité au nom de la Chine. Alors après ça aurait été effectivement un habillage, hein, on peut toujours redire sur ce qui a été fait. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. L'idée d'une guerre sous drapeau des Nations Unies, c'est pas la même chose. Ensuite, la Chine et l'URSS, alors c'est vrai que certains vont dire qu'elle contourne les sanctions, mais elle les vote. Pendant longtemps, il faut quand même voir que les premières sanctions très lourdes datent de 2006, au premier essai nucléaire. Il y a un double jeu de la Chine et de la Russie. C'est pour ça de dire que la Russie et la Chine sont des alliés de la Corée du Nord. C'est une erreur. La Russie et la Chine, dans le jeu de plusieurs pays, sont des partenaires, mais ne sont plus des alliés de la Corée du Nord. Alors, après, il y a des déclarations qui sont ambiguës des dirigeants chinois. On a entendu en août 2017, au moment où les risques de guerre étaient très importants, le Global Times, qui est quand même proche du gouvernement chinois, dire si jamais, dans un édito, si jamais les Américains attaquent la Corée du Nord, on soutiendra la Corée du Nord. Si c'est la Corée du Nord qui prend une initiative militaire, on restera neutre. C'est pas le point de vue officiel des communistes chinois. Mais il est évident que, par exemple, pour les Nord-Coréens, ils ne mettent pas sur le même plan Cuba, qui a toujours été un allié, d'ailleurs qui n'a pas de relation avec la Corée du Sud, hein, c'est... Savoir que Cuba, du fait de sa solidarité avec la République populaire démocratique de Corée, n'a pas de relation avec la Corée du Sud. Ils ne mettent pas Cuba sur le même niveau que les Chinois. Et c'est vrai que c'est tout à fait exact de dire que les Chinois et les Russes auraient pu apposer leur veto. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un jeu qui est assez étonnant, les Américains font un texte. Ils demandent aux Chinois de le voir, les Chinois l'atténuent. Après, on le propose aux autres membres du Conseil de sécurité. Depuis quelque temps, la Russie veut revoir le texte. Mais le fait, c'est qu'ils le votent. Ils pourraient très bien imposer leur veto. Quand on compare, c'est une comparaison, la relation qu'a la Chine vis-à-vis de la Corée du Nord, la relation qu'aux États-Unis vis-à-vis d'Israël, non. Les États-Unis bloquent tout veto contre Israël. Israël n'a pas de sanctions internationales. Et c'est très juste de dire que même s'il y a des sanctions occidentales, 80-90% du commerce extérieur de la Corée du Nord, c'est la Chine. C'est la Chine qui représente une vraie question. Ce n'est pas les sanctions américaines ou européennes. Même si, évidemment, elles compliquent encore un peu les choses. Dites-moi.
Je me suis justement demandé à propos de ce soutien des sanctions à l'ONU, si des fois ce n'est pas un reflet d'une forte, mais plus prête, pression américaine sur le commerce chinois.
Alors, il est évident que les Chinois ont très peur d'avoir des rétorsions commerciales. Alors, les Américains ont utilisé cette menace en 2017 en mettant des rétorsions contre les entreprises chinoises qui travaillent avec la Corée du Nord. Et c'est vrai que la Chine, d'un point de vue commercial, même si elle a les 5 à 6 milliards de dollars bilatérales de commerce extérieur avec la Corée du Nord, peut-être 7 à 8, ça dépend comment on calcule et sur quelle base on prend, elle a beaucoup plus à perdre avec les États-Unis. C'est évident. Aujourd'hui, et les Nord-Coréens pensent également que si un jour il y a un accord américano-chinois sur Taïwan, peut servir de monnaie d'échange. Ils en sont pleinement conscients.
Enfin, je crois que, en tout cas, moi merci parce que j'ai lu le bouquin, là, puis ça va bien, voilà, c'est une bonne révision. Comment tu vois les choses par rapport à... parce que bon, jusqu'à présent, on peut dire que le nucléaire a servi comme conception stratégique en termes de dissuasion. C'est-à-dire, bon, c'est pas parce que j'ai un gros bouton, mais si tu m'attaques, alors j'ai les moyens de te faire payer, etc. Et donc, on est resté dans cette espèce d'équilibre qu'on a appelé équilibre de la terreur, et dans lequel, d'ailleurs, la France, à l'époque, elle a choisi une stratégie indépendante enfin, en matière nucléaire, s'est inscrite. Elle a une force nucléaire bien moindre que l'URSS, enfin elle avait une force nucléaire bien moindre que l'URSS et certainement que la Russie encore aujourd'hui et que les USA, mais elle avait les moyens avec ses sous-marins nucléaires, ses vecteurs, etc., de dire, écoutez, si vous vous attaquez, vous subissez les conséquences. Je crois que c'est le même raisonnement, et tu l'as dit, que tient aujourd'hui la Corée du Nord par rapport à son équipement nucléaire. Et les Américains sont en train de changer de stratégie par rapport à ça. Le dernier rapport là sur le, je sais plus comment il s'appelle en anglais, j'ai oublié, c'est pas très grave.
Non, non, oui. La stratégie ou la doctrine nucléaire.
On voit très nettement apparaître un certain nombre de choses. La première, c'est qu'il y a quatre ennemis désignés. Il y a la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Voilà, c'est à peu près ce à quoi ils considèrent qu'ils ont à faire face. Et ils préconisent quand même maintenant une riposte nucléaire avec des armements de taille réduite, enfin je ne sais pas comment ils appellent ça, low yield, rendement faible, y compris en riposte à des attaques non nucléaires.
C'est-à-dire qu'on a une dizaine de milliers de morts. En
fait. Voilà, on arrive sur un changement de stratégie. Et comment ces choses-là sont perçues, quoi, en Corée, d'une manière générale. Parce que ça abaisse le seuil. Changement de stratégie abaisse le seuil possible d'utilisation de l'armement nucléaire. Alors que jusqu'à présent, c'était gros machin, et puis on y allait carrément, quoi. On n'y allait pas d'ailleurs, mais bon, on n'y a pas été jusqu'à présent.
Enfin, non, mais tout à fait.
Sauf à Hiroshima et Nagasaki, mais les autres n'avaient pas de bombes atomiques, ils ne pouvaient pas. Bon, voilà. Oui, mais ça, c'est un autre aspect du problème.
Oui, mais enfin, bon, on va tout savoir.
Non, mais c'est un autre aspect du problème. C'est pas.
Ouais. Non, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on a effectivement eu. Sur un équipe de la terreur, l'idée de toute façon que l'utilisation était impossible, même si les États-Unis ont utilisé l'arme nucléaire, c'est une sorte d'absurdité. Quand on voit le musée de la guerre en Corée du Sud, on vous simule une attaque nord-coréenne en reprenant Hiroshima et Nagasaki. Mais c'est un peu étonnant. Ceux qui ont utilisé l'arme nucléaire, c'est les Américains, c'est pas les Nord-Coréens, jusqu'à preuve du contraire. Ben, tout dépend du conditionnement. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à Hiroshima et Nagasaki, les deuxièmes victimes après les Japonais, étaient les Coréens. Du fait des travailleurs forcés coréens, il y en avait 2 millions dans la péninsule et beaucoup dans ces deux villes. D'ailleurs, c'est un des domaines où il y a une coopération entre Japon et Corée du Nord sur les conséquences des radiations. Ce qu'il faut voir, effectivement, c'est qu'on a aujourd'hui un changement de doctrine qui est extrêmement inquiétant, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on va dire quelques dizaines de milliers de morts, ce sont les Nord-Coréens. Alors, les Nord-Coréens, ils sont prêts depuis de longues dates à savoir qu'ils sont capables de subir un sort de premier ordre, ils le savent. Ils le savent de telle manière que même ils ont même prévu des possibilités justement d'une vie troglodyte pour empêcher dans l'hypothèse où ça arriverait. La principale inquiétude, c'est qu'on commence par les ennemis les plus affreux, enfin, l'horreur absolue, c'est-à-dire le Nord-Coréen. Moi je me rappelle encore, j'allais d'une conférence avec le monde de la paix dans les Vosges, je racontais à quelqu'un, il me dit « Ah oui, les Nord-Coréens, il faut vraiment leur bourrer la gueule ». C'est une idée qu'on trouve beaucoup dans l'opinion. Il faut libérer la Corée du Nord. Bah oui, le dirigeant est affreux. Donc, ayons confiance dans Donald Trump. Ayons confiance. Ça prouve à quel niveau on en est dans l'opinion française, dans l'opinion publique. Ça, les gros médias ont bien joué leur rôle. Non, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, ils en sont plus que jamais conscients. Mais après, c'est également une folie. Parce que ça veut dire que la doctrine de dissuasion, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir qu'il y a aussi des troupes américaines qui là sont sur des tirs de missiles beaucoup plus courts avec une beaucoup plus précision de frappe attirent des Nord-Coréens. Je pense que du côté américain il y a cette idée qu'on ne le sait pas. Alors après, ce que je retiens quand même, c'est que dans cette crise, le Pentagone a quand même sorti le chef des armées, a quand même sorti américaine qu'il désobéirait. Ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire que normalement, les militaires sont sous les ordres des politiques et disent, je n'hésiterai pas à désobéir à un ordre illégal. C'est intéressant. C'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, le Pentagone est sous les feux de la critique dans certains milieux chez Trump. Ils trouvent qu'ils ne vont pas assez loin. Il n'y a pas assez de scénarios de guerre. Comment être crédible si on n'a pas de scénario de guerre? Il y a dans l'appareil d'État américain de profondes fractures. Mais effectivement, une des principales conséquences, c'est que pour la première fois, on renvisage une sorte, allez, on va dire, après l'attaque ciblée, le bloody nose attack, comme on dit, mais sanglant, le coup de poing, c'est sympathique comme image, maintenant l'attaque nucléaire ciblée. L'attaque nucléaire, c'est pas ciblée, les radiations elles vont très loin. Alors, il y a quand même un gros avantage, heureusement, c'est que toucher la Corée du Nord, ça a forcément des effets sur le reste de la région. Et d'ailleurs, au moment de la... S'il y a un pays qui soutient à fond Donald Trump, c'est Shinzo Abe, qui en a profité pour dissoudre et élargir sa majorité, c'est toujours bon d'avoir une bonne crise, à part Shinzo Abe, et même là, à ce moment-là, il n'y a pas de volonté d'aller vers un conflit. Mais le risque, c'est qu'on commence par la Corée du Nord et qu'après, il y ait d'autres conflits. Et malheureusement, c'est qu'après, c'est assez simple en supprimant toute image. Vas-y.
Oui, moi je pense que il faut, pour l'association, je parle.
Oui.
Si vous voulez, on a connu, quand on a milité dans le temps à Frontur, il y a plus d'un demi-siècle, on connaissait aussi les situations, comment c'était compliqué, les choses, il fallait tenir compte. Je crois qu'à mon avis, là, ce qui se passe en ce moment, parce que vis-à-vis de la Corée du Nord, dans l'opinion, en France, c'est pas si simple. Par exemple, moi, quand j'ai dit à des bons copains et des camarades que je fréquente, c'est pas des copains qui sont révolutionnaires depuis 15 jours. Vous voyez, je leur dis, tiens, j'ai adhéré à l'association France-Corée du Nord, etc., qui est bien quelques temps, qui me regardaient avec des gros yeux en disant, qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans? Bon. Et pourquoi? Parce que j'avais posé la question à Benoît déjà. Quand vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, un pays qui tenait sur le nucléaire, il part avec un handicap. Je parle de l'opinion française. Il ne faut jamais oublier qu'on a mené la guerre contre notre propre bombe, avec De Gaulle. Contre le nucléaire en France, etc., le mouvement ouvrier français, il a une longue tradition de lutte, qui touche à la paix, d'ailleurs, d'une manière plus générale. Et moi, je m'interrogeais un peu en me disant, c'est la première fois dans les conflits qui sont majeurs. Cuba, par exemple, les FARC n'avaient pas la même ampleur par rapport à la Colombie, mais nos camarades dans ces pays-là, et je pense notamment à Cuba, n'ont jamais cherché, dans l'affrontement qu'ils ont avec les États-Unis et qui fait, si les deux et plus longtemps, à se munir de l'arme nucléaire, ça a même été l'inverse. En 1962, les soviétiques retirent les fusées qu'ils avaient mis là pour répondre aux Pershing. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, avec ce qui se passe et les Jeux Olympiques, il y a une situation complètement nouvelle, vis-à-vis de la Corée du Nord. Dans l'opinion, je parle. Que ce n'est pas des vapeux, obligatoirement, qui veulent taper la gueule à tout le monde, etc. C'est intéressant. Et je crois qu'il faut que l'association, mais pas seulement elle, d'une manière plus large, les camarades qui militent, qui font confiance à la lutte internationale, vous voyez bien, ça c'est le foyer en Extrême-Orient, on a toujours la Palestine et Israël au Moyen-Orient, il y a le foyer déployé en Amérique latine. Pas simple à gérer non plus, oui. Etc. Je crois que là, il y a une situation nouvelle qu'il faut se saisir assez très vite, quoi.
Perfect.
Très vite pour montrer que l'homme méchant, c'est les États-Unis, c'est pas la Corée du Nord. Et on a certainement une petite difficulté. Parce que même moi, comme je dis, il y a un mois, on était sur le schéma, j'ai un plus gros bouton que toi, c'est un champion, etc. On pouvait avoir l'impression qu'on était au bord de la guerre nucléaire, si vous voulez. Quelques jours après, avec les Jeux Olympiques, un rapprochement spectaculaire et à l'initiative de la Corée du Nord. Vous voyez ? Donc ça, pour bénir, voilà, c'est un peu sur mon interrogation, mais c'est pour montrer, parce que, vous voyez, c'est le même problème avec l'Iran. Dans le peuple français, on n'aime pas. On n'aime pas la guerre, par principe. Oui. On a une vieille tradition de lutte pour la paix. Et globalement, si vous voulez, Hiroshima, Nagasaki, ça va être profondément ancré dans les mémoires. Et voilà. C'est un peu parfouille, mon truc.
Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, Janine.
Vous avez expliqué qui peut expliquer la position de la Chine à l'ONU par rapport à la Corée du Nord, mais la Russie, quelle peut être quels peuvent être ses intérêts à s'abstenir.
Enfin, ça va plus loin qu'une abstention, hein, parce que c'est un vote qu'il faut... Elle vote, c'est un peu plus loin. En tout cas, elle n'a pas...
Oui, j'ai une question, en fait, sur le rôle, la politique de la France et le rôle du Quai d'Orsay, qui a été... est-ce que c'est révélateur, justement, d'une otanisation, d'une subalternité totale vis-à-vis de la politique des États-Unis, ou est-ce qu'il y a des motivations plus proprement françaises dans cette attitude jusqu'au boutiste.
Je prends ces trois questions.
Vas-y.
Sur la question nucléaire, ce que dit Roger et tout ce que tu dis est tout à fait juste. Moi, on a parlé de gens qui sont des militants communistes qui me disent, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors, il y a quelque chose qu'il faut quand même savoir, c'est que quand il y a eu le débat sur le traité d'interdiction d'élimination des armes nucléaires, traité pour lequel a milité l'association ICAN, enfin la coalition ICAN. Avant, il y a eu une résolution à l'Assemblée aux Nations Unies, le premier comité des Nations Unies, la résolution 2241, à l'automne 2016. Le seul pays qui a voté pour un monde sans armes nucléaires, c'est la Corée du Nord. Alors c'est curieux, parce qu'on va dire que certains sont abstenus à ce moment-là, d'autres ont voté résolument contre, dont la France et les États-Unis, en disant que cette résolution était scandaleuse, qu'elle faisait le jeu de la Corée du Nord. C'est curieux. Et la Corée du Nord est la seule qui a voté contre la résolution L2241. L41, ça je confonds avec la résolution des Nations Unies. La résolution L41. La Corée du Nord n'est pas un pays qui a développé l'arme nucléaire par goût de l'arme nucléaire. Elle l'a dit elle-même, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Et quand on a redemandé aux Nord-Coréens, mais pourquoi finalement vous avez changé de position, parce qu'à la fin, quand il y a eu la négociation du traité, tous les pays dotés d'armes nucléaires n'ont pas participé aux négociations. Fini les nuances de position. Elle a dit, mais écoutez, nous on aimerait bien, mais vous croyez que c'était le moment d'abandonner notre unique carte des négociations alors qu'on est sous la menace d'une attaque américaine imminente. On ne peut pas le faire dans ces conditions. Donc ça, c'est un élément qu'il faut dire, c'est que la Corée du Nord n'a pas un usage déjà d'armes en premier, c'est-à-dire encore heureux, qu'ensuite elle a des positions non proliférantes et surtout qu'elle reste fondamentalement attachée à une dénucléarisation. Sauf que la dénucléarisation, c'est l'aboutissement d'un processus. Quand les Américains disent, vous commencez par dénucléariser, puis après on négociera, ça ne s'appelle pas une négociation, ça s'appelle un dictat. Si vous commencez par mettre le résultat avant, qu'est-ce qui reste à négocier? Votre bonne volonté, l'avenue de capitaux américains qui ne viendront pas. Sur les intérêts de la Russie. La Russie a des positions qui ont évolué. La Russie d'Eltsine, déjà Gorbatchev a arrêté les accords de troc, qui étaient plutôt favorables à la Corée du Nord. Eltsine s'est totalement désinvesti et lors de la première négociation multilatérale sur la crise coréenne après 1994, il y avait quatre parties. Les deux Corées, la Chine, les États-Unis. Il n'y avait pas la Russie et le Japon qui ensuite étaient dans les pourparlers à 6. C'est-à-dire que la Russie avait été mise complètement à l'écart. Elle revient dans le jeu en 2006, mais aujourd'hui elle a relativement peu de marge de manœuvre. Le commerce extérieur nord-coréano russe, il est à peu près de 100 millions de dollars par an, c'est-à-dire quelques pourcents du commerce extérieur nord-coréen, et la Russie n'a pas réussi à jouer tout le rôle qu'elle avait, parce qu'elle n'a plus non plus ses leviers. Aujourd'hui, si elle le fait, c'est parce que les Nord-Coréens veulent desserrer une trop grande dépendance vis-à-vis des Chinois en trouvant d'autres partenaires. La Russie, mais aussi des acteurs du tiers-monde, hein, la Thaïlande est de longue date un des principaux partenaires commerciaux. Et aussi parce que les Nord-Coréens ont compris l'intérêt, que Vladimir Poutine était un type intelligent, en tout cas qui voyait les intérêts. Par exemple, ils ont été dans les premiers à reconnaître le fait que la Crimée revient à la Russie. Ça, ils ont eu des positions qui ont été clairement du côté de Moscou. Et l'intérêt également qu'il y a de la Russie, c'est d'essayer de retrouver une marge de manœuvre. La Russie est en train de remettre en place des positions portuaires en Corée du Nord pour les échanges internationaux. Donc ça, on a une position qui est un peu plus compliquée. Alors pourquoi la Russie vote malgré tout les résolutions? Alors c'est très compliqué parce que chaque fois qu'il y a une crise, les Russes sortent que le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, dénonce les Américains et même maintenant devenu plus virulent que la Chine. Et à la fin, ils votent les résolutions. Il y a quelque chose d'un peu contradictoire. Pas tant que ça. Parce que les Russes sont dans une logique, ils ne veulent pas un affrontement direct avec les États-Unis. Je pense que la Corée du Nord est un cas intéressant. Il n'y a pas une recherche par Moscou de volonté systématiquement de contrôler les États-Unis. C'est plutôt une espèce de sorte de zone d'équilibre. On a plus l'impression qu'ils utilisent la Corée du Nord comme un outil avec sur un grand échiquier diplomatique. Quant au Quai d'Orsay, sa position elle est quand même très curieuse. Du temps de Gaulle, on est quand même un des pays qui a les meilleures relations. Et ça sera vrai jusqu'au milieu des années 90. François Mitterrand a visité la Corée du Nord à la veille de la présidentielle de 81, au point que Georges Marchais était jaloux et qu'il aura vu aussi son invitation, mais aussi, semble-t-il, dans les années 60, avec d'ailleurs le lien français chez les socialistes, c'était François de Grossouvre. François de Grossouvre, dont un jour j'ai dit comme nord-coréen qu'il était quand même dans les réseaux de Stabilize, hein, les réseaux de la CIA. Ah bon, c'est étonnant. Ah ben non, non. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément inintéressant. Hein, on prend ce qu'on a comme contact. Donc la France avait toute une tradition d'indépendance, puis aussi, disons-le, d'un certain intérêt. Les milieux socialistes, Jospin, qui était encore trotskiste à la fin des années 70, qui était au PS, responsable des relations internationales, ça on le voit dans un bouquin très bien documenté qui s'appelle « Les voyages de François Mitterrand » qui est sorti aux presses universitaires de Rennes, excellent éditeur, où il dit qu'il faut s'intéresser à la Corée du Nord, qu'il y a des liens, notamment dans le tiers-monde, et notamment les pays d'Afrique francophone, des liens extrêmement forts, que c'est un pays, alors Lionel Jospin parle de culte de la personnalité délirant, mais il dit que c'est un pays avec lequel il faut s'intéresser. J'ai envie de dire que finalement, la fin de la guerre froide a un peu diminué l'intérêt de la Corée du Nord, qui était un peu comme ce qu'était la... Je parlais de la Yougoslavie, pas forcément en termes d'idéologie, mais en termes de position, mais ce qui était aussi la Roumanie de Nicolae Ceaușescu. L'intérêt a beaucoup diminué. Puis également, la Corée du Nord n'avait plus les moyens de mener une politique d'aide au développement qui était extrêmement importante. Aujourd'hui, au Quai d'Orsay, il est de bon ton de considérer qu'il y aurait les Gaulo-Mitterrandiens et les Euro-Atlantistes. C'est une ligne de fracture qui existe, mais qui est quand même relativement plus complexe. Pour voir un peu comment fonctionne le Quai d'Orsay, il n'y a pas d'à côté un Euro-Atlantiste ou un Gaulo-Mitterrandien. Ça, c'est un peu une lecture védrinienne des choses. Alors, il ne faut quand même pas négliger l'influence d'acteurs qui veulent retrouver une indépendance, parce que la tribune d'Emmanuel Macron dans le Figaro, c'est une tribune qui est signée Védrine. Emmanuel Macron a fait des tentatives. Au mois de juillet, il a dit à un moment qu'il fallait que toutes les parties fassent preuve de retenue. C'est une inflexion du discours. Ce n'est pas tout à fait la même chose que dire que tous les torts sont de la côté de la Corée du Nord. D'ailleurs, je l'avais dit aux Nord-Coréens, au département des relations internationales du parti en août dernier, quand j'avais rencontré, j'ai dit, voilà, Emmanuel Macron aimerait bien jouer les faiseurs de paix. Ça lui ferait plaisir d'avoir une carte plus ouverte, et vu dont part François Hollande, il a de la marge. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, je ne sais pas que c'est parce que je l'ai dit, mais les Russes et les Chinois l'ont également dit. Quand il y a eu les votes des résolutions, ils ont tenté, il y a eu des coups de téléphone. Le vrai problème, c'est que la France, j'ai envie de dire, je ne dirais pas qu'il y ait des motivations françaises sur ce sujet-là, je dirais plutôt qu'il y a un désintérêt. Une incapacité à comprendre ce qui se passe. Une incapacité qui est liée à la fois, parce que là, il y a des droits de l'homme, hein, il y a enfin, ceux qui mettent les droits de l'homme comme une religion qui sont assez influents, et puis surtout, il y a une profonde méconnaissance ou un désintérêt. Si la France s'intéressait même à écouter les diplomates sud-coréens actuels, hein, pas ceux de la tendance Park-Geun-hye, même si les choses remplacent les uns après les autres, elle comprendrait probablement mieux ce qui se passerait. J'ai envie de dire qu'il y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. La France ne voit pas son intérêt. Alors certains vont dire que que les diplomates français avec la Corée, ils n'ont pas envie d'être envoyés en Corée du Nord. C'est terrible. Hein. Qu'est-ce qu'on s'ennuie d'abord, hein. Il y a, la vie est tellement atroce. D'ailleurs, il fait froid, et puis il n'y a pas d'amusement, et puis bon, c'est mal chauffé l'hiver. Enfin bon, non, c'est vraiment horrible. Alors, je pense quand même que plus fondamentalement, Olivier Bouchard parlait du lobby sud-coréen en France, il existe. Il ne faut pas se faire d'illusions. Par les mariages mixtes, par les petits centres d'intérêt, par les invitations comme de François Hollande en Corée du Sud, il existe ce lobby. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a un certain nombre de gens qui viennent. François Hollande n'était même pas encore président de la République, enfin, n'avait pas encore présenté en fonction, qu'immédiatement le gouvernement sud-coréen envoie au Sénat, où à l'époque on avait un président socialiste, du Sénat, enfin, président membre du Parti socialiste, auprès de l'Élysée pour immédiatement dire attention, parce qu'ils avaient peur que François Hollande fasse du François Mitterrand. Parce que François Mitterrand élu avait dégradé les relations France-République de Corée dans les groupes parlementaires, considérant que la Corée du Sud n'était pas à l'ONU. Si François Hollande faisait du François Mitterrand, si François Hollande avait une sympathie pour la Corée du Nord, en tout cas pas la même hostilité, parce que François Mitterrand était très méfiant vis-à-vis du régime sud-coréen, de ce qu'il était à l'époque. Non, les choses ne sont pas les mêmes. Et à l'époque, encore et toujours, les réfugiés nord-coréens en Corée du Sud. Alors là aussi, il faut pas prendre tout au pied de la lettre, on va non plus tout rejeter en bloc. Il y a des réfugiés nord-coréens dans le monde. Il y a un certain nombre de gens qui sont partis pour raisons politiques. C'est Yong-ho, le diplomate numéro 2 à Londres. Certes, il voulait que ses enfants vivent mieux, mais il y avait aussi probablement une lassitude politique. Il ne faut pas le négliger. Voire, dans certains cas, on parlait des pro-russes ou des pro-soviétiques et pro-chinois, des gens qui sont partis. Alors, sauf que la plupart des réfugiés, ils font pas des tonnes de bruit. On les voit pas arriver. Un certain nombre, même, sont plutôt nostalgiques et ne veulent pas ça. Les seuls dont on parle, c'est ceux qui deviennent un peu les appointés. Un peu comme du temps du macartisme, on voyait toujours les mêmes gens qui étaient dans tous les procès, qui allaient d'un plateau à l'autre et qui en vivaient. Et malheureusement, c'est un peu ça qu'on voit. Alors, en Corée du Sud, ils passent plus, ces réfugiés. Ils sont trop médiatiques pour être honnêtes. En France, malheureusement, peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude, ça passe toujours. Le meilleur exemple, c'est un recueil de nouvelles. Un jour, on a découvert le seul Yenitsin nord-coréen. Les documents sortis sous le manteau, ce sont des écrivains, ils s'appellent Bandi. Rien à voir avec le fait que c'est une œuvre de Fossey. Le problème de Bandi, c'est qu'il est édité en Corée du Sud par un auteur d'extrême droite. Ce qui, évidemment, rend les choses un peu suspectes. En France, aucun doute. Le monde diplomatique, qui n'est quand même pas l'organe le plus virulent de la CIA, la responsable fait une page dans la rubrique publication. Au même niveau, Patrick Morus, professeur Linelco et des recueils de nouvelles nord-coréennes qui n'ont évidemment eu pas le succès médiatique, et de l'autre côté, Bandi. Elle ne met pas un seul moment en cause ce que représente Bandi. Et finalement, je rebondis sur ceux qui disaient, oui, qu'il faudrait qu'on parle plus, mais tout à fait, et même l'association a même parlé des gens insoupçonnés. Les milieux, par exemple, souverainistes de droite. C'est assez curieux, mais par exemple, sont pas les plus hostiles. Moi, je me suis retrouvé à faire une interview dans Monde et Vie. Bon, Monde et Vie, c'est les cathos traditionnalistes. Bon. Et comme m'avait dit quelqu'un, c'est intéressant, ça nous change de Jean-Yves Le Guen. Bon. On a parfois des comparaisons qui sont assez approximatives. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Non, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que bizarrement, il ne faut pas croire que c'est les gens les plus éloignés des positions de gauche qui sont les plus fermés. C'est tout un contexte politique. Nous, on va raconter une anecdote en Lorraine, Saint-Dié, un éditeur qui d'ailleurs vend du Delga, des éditions Delga, mais là, Corée du Nord et mon ouvrage chez Delga, non, là c'est trop. Bon, on lui propose par exemple Dorian Malevitch de la Croix. Mais Dorian Malevitch, qu'on voit souvent sur les antennes, on est très proche de ses positions. Dorian Malevitch, qui est un spécialiste de la Chine, je crois quelles sont ses opinions politiques, et la responsable d'Asie de la Croix. Ça passait. Donc c'est pour ça, à un moment, il ne faut pas hésiter. Et c'est vrai que c'est important, même dans des milieux qu'on pourrait penser plutôt acquis, des gens qui ne doutent pas de ce qui peut se passer. Moi, je suis surpris chaque fois qu'il y a des offensives médiatiques, je vois des adhérents de l'association qui partent. Et généralement, les adhérents les plus proches du Parti communiste. C'est parce qu'ils ont, ont peur. Cette fois-ci, non. Là, ça va trop loin. On ne peut pas justifier ça. C'est curieux.
Oui, mais pour rebondir un petit peu, puis après on va s'arrêter là, puis je commence à faire proche, je ne sais pas pourquoi. Moi, depuis que Benoît m'a converti, là, mais ça fait un petit moment quand même, chaque fois qu'il y a une émission sur la Corée, je me précipite. Alors, la semaine dernière, je ne sais pas si certains l'ont vu, sur France 5, l'émission...
Arte.
Non, France 5.
Ah ouais.
Sur une émission... Non, c'était Arte, tu as peut-être Arte, raison. Oui. Il y avait Ancel, Morillo,
ouais.
Et puis deux autres dont j'ai oublié le nom. Et Ancel, qui n'est pas réputé comme un homme sans connaissance, disons, ouais. Fait référence à une jeune femme qui a été fusillée, que vraiment c'est terrifiant, etc. Et Morillo lui dit, mais attendez, elle est passée à la télévision il y a une semaine. La médecine nord-coréenne est...
Les morts ressuscitent,
c'est extrêmement efficace. Et il était... Bon, ça, il était là. Ah bon, mais j'ai vu ça dans la presse. Et Morillo lui dit, mais écoutez, il ne faut pas lire la presse pour savoir ce qui se passe en Corée du Nord. Je trouve que des choses comme ça, ça déménage un peu.
Alors, c'est intéressant, parce que justement, là, l'ex-petite amie, soi-disant, exécutée après une sextape. C'était en août...
C'est
août 2015. Et c'est assez étonnant parce qu'à un moment, déjà première chose, ça vient déjà d'un journal, le Chosun Ilbo, qui est les 40 minutes en Corée du Sud, mais avec l'audience du Figaro, pour faire simple. Donc déjà, je dis méfiant. D'ailleurs, c'est marrant parce que le Globe du Monde, qui s'appelle Luc Boisseur, rajoute quelque chose quelques heures après qu'on ait publié. C'est bien quand même de savoir que nous sommes peut-être pas avec l'audience qu'on espère toujours mieux, mais qu'on est lu par des gens qui sont informés. On dit, mais tout ça, le nombre de morts qui ont ressuscité, sauf que des années après, on retrouve les mêmes choses. Parce que l'avantage d'une rumeur, c'est qu'elle reste pendant des années sur Internet. Elle ne sera jamais démentie. Même si elle est démentie, elle est démentie beaucoup moins fortement. Et c'est absolument fabuleux. Et les Nord-Coréens, d'ailleurs, en joutent. Puis après, regardons une sextape. Est-ce que avec qui elle va la vendre, déjà, cette sextape? Ensuite, elle va à l'étranger, elle a de l'argent. Alors, à un moment, comme les services secrets sud-coréens étaient gênés, ils publient des extraits de la sextape. Bon, ça ressemble plus à Joséphine Baker au début du XXe siècle. Alors après, je comprends que ça puisse être compliqué. Et surtout, à savoir, à un moment, qui a intérêt à diffuser ça? Chosun Ilbo, journal d'extrême droite sud-coréen. Pourquoi à ce moment-là? Mais au mois d'août, l'affaire chez Sun-sil, l'affaire qui va emmener la Park Geun-hye, parce que chez Sun-sil était sa Rasputin avec le même type d'influence. Ça commence à prendre de l'ampleur. Donc il faut trouver un contre-feu. Le contre-feu était idéal. Et donc c'est là que sort cette histoire-là. Un autre exemple, l'histoire du soldat nord-coréen qui a fait défection avec des vers longs comme le bras de plusieurs mètres, des vers solitaires. Bon ben ça, c'est des choses qui existent encore en Corée du Sud, dans beaucoup d'états en développement, il n'y a encore pas si longtemps. Je ne veux pas dire que ce n'est pas horrible, que l'idée que quelqu'un fasse défection. Alors on a appris récemment, alors là c'est beaucoup plus surprenant, qu'un avait fait défection pour meurtre, pour une affaire de meurtre. Là je ne comprends pas l'intérêt par contre des services secrets sud-coréens qui le débriefent de mettre ça en avant. C'est peut-être parce qu'ils ont plus en mode criminel, c'est possible aussi.
Bon,
c'est bon.
Non, en tout cas, merci beaucoup Benoît pour ce magnifique exposé et puis toutes les questions et interventions qui montre l'intérêt, enfin, que je crois qu'on va continuer sur tout ça, à informer. Bon, l'association est là, vous pouvez y adhérer, vous pouvez acheter le bouquin de Benoît, je crois qu'il en reste encore quelques-uns.
Et de Robert Charvin,
qui est aussi un homme passionné par toutes ces questions. Merci Benoît. On va te libérer pour que tu puisses aller à la réception. Tu donneras le bonjour à l'ambassadeur. Et puis, à bientôt.
Merci.
Parce que j'espère qu'on aura l'occasion
de
Et merci à vous.